France Culture.
Les nuits de France Culture.
Si le mot est encore relativement commun dans la langue moderne, peu savent qui furent réellement les troubadours. De l'occitan troubadour, ce sont des poètes, musiciens et compositeurs en Languedoc, avec des morceaux portant souvent sur l'amour courtois et la chevalerie. Mais c'est moins les thématiques de leurs compositions qui fascinent le poète et mathématicien Jacques Roubaud que les formes que s'imposaient ces ménestrels itinérants. C'est souvent avec des contraintes formelles très complexes que devaient composer ces troubadours. Il y a pourtant dans leur travail quelque chose d'indicible, une beauté qui touche l'auteur de quelque chose noir et dont il se sent très proche. Ce n'est pas un hasard s'il consacre une bonne partie de sa vie à étudier, traduire et rendre hommage à ses protagonistes finalement assez peu connus de la littérature médiévale. C'est cette fascination, celle pour les œuvres portant sur le Graal, mais aussi ses propres œuvres en prose, qu'explore Jacques Roubaud au micro de Christian Rosset dans ce quatrième de 5 à voix nues réalisé par Bruno Sourcy. Une émission diffusée pour la première fois le 4 mai 2000 sur France Culture.
Jacques Roubaud, je me rends compte que nous sommes déjà dans le quatrième entretien et que nous n'avons même pas évoqué les troubadours, alors que je crois savoir que pour vous, c'est quand même une des bases essentielles de votre travail, non seulement parce que vous les avez étudiés énormément, mais aussi parce que d'une certaine façon, vous avez envie d'être une sorte de, non, je ne sais pas si on peut dire d'équivalent, mais en tout cas de troubadour moderne, est-ce qu'on peut dire ça? Ou d'aujourd'hui, disons plutôt. Moderne, je ne sais pas.
Non, je pense qu'on ne peut pas être un troubadour aujourd'hui. Les conditions générales de la composition poétique ne sont plus les mêmes. D'une part, il s'est produit quelque chose d'assez fondamental au XIVe siècle, qui peut-être sera réduit ultérieurement, mais je ne le vois pas pour le moment. C'est la séparation entre poésie et musique. Chez les troubadours, il n'y a pas cette séparation encore. Donc la division du travail créateur, du travail artistique entre poésie et musique, qui se produit partout au XIVe siècle, ne s'est pas encore produite. Donc, chez les troubadours, les deux vont tout à fait ensemble. En fait, chez les troubadours, c'est quand même la poésie qui est aux commandes, bien que la musique soit très importante, mais la poésie est aux commandes, et la musique sert au fond de soutien et de lien entre des éléments de la poésie qui ne sont pas unifiés par un récit, qui ne sont pas unifiés par une progression dans ce qui est dit, parce qu'ils changent constamment de direction. Et donc l'unification est assurée par la musique. Quand cette rupture se produit, quelque chose vient assurer cette unification, c'est le fait que la poésie, quand elle existe en tant qu'autonome, en tant qu'art autonome, ce qui, je pense, est le cas pour moi, en tout cas, c'est le cas aujourd'hui pour moi, joue sur ce que je disais dans un entretien précédent, c'est-à-dire qu'elle joue sur le rapport entre oral et écrit. C'est l'écrit qui, curieusement, c'est pas l'oral, mais c'est l'écrit qui va prendre la place de la musique. C'est au fond, la partition sur la page, la disposition sur la page, l'espèce d'image du poème qui est sur la page, qui assure l'unité profonde du poème qui lui coule dans l'oralité et joue ce rôle-là. Alors, pour moi, la découverte des troubadours a été quelque chose d'essentiel parce que j'y ai trouvé, au fond, une conception de la poésie que je n'ai pas trouvée ailleurs, que je n'ai pas trouvée dans l'Antiquité, que je n'ai pas trouvée dans les autres traditions mondiales, et au fond, qui reste fondamentale pour moi.
C'est peut-être un des modes non seulement de survie, je ne sais pas si vous allez me dire d'ailleurs si ce mot est bien choisi, disons de la pratique poétique à notre époque. Cette survie ne peut exister qu'en se nourrissant d'une projection dans un passé lointain ou dans un ailleurs finalement. Parce que d'une certaine façon, pour que ça marche, il faut être dans plusieurs temps. Et vous l'avez d'ailleurs dit de nombreuses fois, il faut refaire travailler sa mémoire comme elle fonctionnait avant l'invention de l'imprimerie.
Un des éléments tout à fait essentiel de l'expérience des troubadours, quand on la regarde de près, c'est que le troubadour qui compose, disons, le troubadour de la troisième ou de la quatrième génération qui compose, il a dans la tête une quantité invraisemblable de kansu, puisque c'est la forme, elle s'appelle la kansu, de ses prédécesseurs et de son contemporain. Il y a une espèce d'axiome, de contrainte générale de composition dans cette forme poétique qui l'oblige à agir de cette façon, puisqu'il doit faire preuve d'originalité tout en restant dans la même forme. Alors, d'une part, il faut qu'il soit dans la même forme, et cette forme est très contrainte, mais en même temps, il faut qu'il soit original. Dans la façon dont il peut être original et qui va être de jouer des variations sur la disposition des rimes, sur des morceaux de la mélodie, sur la longueur des vers, des choses comme ça, cette façon d'être original tout en restant dans la même forme stricte suppose qu'il ne fasse pas, sans le vouloir, la même chose que les autres. Donc ça suppose qu'il connaisse un répertoire énorme. Et ça suppose également que son auditoire le connaît. Donc il y a des conditions d'existence de la poésie qui ont été tout à fait privilégiées. Ça n'a pas duré très très longtemps. Hein. C'est vrai que le mouvement des troubadours a été détruit par des circonstances historiques, mais en fait, de toute façon, ça ne peut pas se prolonger indéfiniment parce que la complexité de l'objet, c'est un peu comme comme la polyphonie, mais la complexité de l'objet devient telle que de toute façon ça allait s'effondrer, hein. Bon. Mais il y a eu un moment exceptionnel, et c'est ce moment au fond que moi je suis allé chercher, c'est pour ça, aller chercher dans d'autres civilisations, aller chercher dans d'autres moments de sa propre civilisation, dans d'autres expériences poétiques, c'est important pour avoir une distance entre ce que l'on fait et le passé, et donc faire jouer la mémoire, une mémoire de la langue, hein, c'est clair, puisque les troubadours composent dans une langue romane, et donc on fait jouer la mémoire de la langue. C'est très important. Ceci dit, il y a un autre aspect que je ne voyais pas quand j'ai commencé à travailler sur les troubadours, mais qui m'apparaît de plus en plus. La difficulté qu'a la poésie à survivre dans le monde contemporain par rapport à l'édition, par rapport aux médias, par toutes choses comme ça, le fait qu'elle n'est plus dans la mémoire des gens, que les gens ne connaissent plus de la poésie. Donc cet ensemble de choses qui rendent quelqu'un comme moi, parce que je commence à être âgé, pessimiste, en même temps donne l'idée d'une manière de prolongement et de survie possible que finalement la technique permettrait. C'est-à-dire, au fond, ce qui est très important dans le cas des troubadours, c'est que le troubadour composait et puis il venait devant son public pour exécuter ses œuvres. Or, il est tout à fait possible aujourd'hui, grâce aux moyens d'enregistrement et par exemple à la vidéo, de redonner quelque chose de la présence, hein, qui n'est pas seulement une présence orale, mais ce qui est également une présence physique de celui qui va essayer de transmettre de la poésie, on peut le faire aujourd'hui. Donc on a, et c'est pareil sur écran. Hein. Vous pouvez mettre un poème sur écran, etc. Je n'ai encore pas réellement trouvé de gens qui me disent honnêtement qu'ils ont lu un roman sur écran.
Oui, je ne serais pas très optimiste non plus sur cette forme. D'ailleurs, vous aviez dit à un moment donné, puisque à propos des six branches du grand incendie de Londres, que vous cesseriez de les publier en livre et que vous les metteriez sur Internet. En attendant, le dernier, qui s'appelle d'ailleurs Poésie 2. Est encore un livre de la collection Fiction et compagnie qui pèse 1,5 kg ou quelque chose comme ça. Et donc, au fond, le support papier reste quand même la meilleure transmission possible de ce travail.
Bon, disons que je n'ai pas renoncé à mettre ça sur support papier. Ceci dit, il y a des choses que je ne peux pas faire, dans cette disposition-là, et qui me posent un problème sérieux pour la branche suivante. La branche 5, que j'écris déjà depuis un moment, puisque...
Est-ce qu'il a toujours le même titre ?
Ah ben, le titre général, c'est le Grand Incendie de Londres.
La branche 5.
Ah, je ne l'ai pas donné encore.
Il y a un titre, je crois, dans Poésie 2, et malheureusement, je ne l'ai pas en mémoire, qui dit qu'il devrait s'appeler comme ça.
Ah, je l'ai dit.
Ah, vous ne vous souvenez pas de... Et la branche 6 devrait s'appeler la distraction, ça je m'en souviens.
Oui, oui. Bon, c'est vrai. Bon, disons, cette branche 5, avec son titre que je ne dis pas, mais qui est peut-être effectivement déjà dans la branche 4, me pose un problème parce qu'il y a des choses que je ne peux pas faire dans la disposition que j'ai choisie, bien qu'elles me permettent quand même beaucoup de digressions, pas de digressions, mais beaucoup d'embranchements, beaucoup de retours en arrière, beaucoup d'embranchements, beaucoup de bifurcations, mais elles sont limitées. Autrement dit, je peux difficilement, pour le dire le plus simplement possible, ayant ouvert une parenthèse qui va me donner une incise, à l'intérieur de cette incise, j'ouvre une autre parenthèse qui me donne une incise dans une incise, je l'ai fait 2-3 fois, je ne peux pas continuer plus loin que ça, ce n'est pas envisageable.
Ça rejoint ce que vous disiez sur les troubadours.
Donc sur l'écran, je peux le faire.
Ça rejoint ce que vous disiez à propos des troubadour, c'est qu'à un moment donné, il y a une limite à la complexité possible. C'est-à-dire, il y a une recherche d'une certaine complexité, mais il y a un moment où, est-ce qu'on peut dire trop de complexité tue la complexité, comme pour l'impôt. C'est-à-dire, à un moment, ça se casse la gueule parce que c'est plus possible.
Ça se casse la figure. Peut-être pas pour celui qui est en train de le faire et qui a l'impression de le maîtriser, mais si personne ne peut pénétrer ce qu'il a dit, ça, évidemment, un petit peu discutable, parce que malgré tout, ça fait quand même un effet. Je sais pas, moi, des mesures épouvantablement compliquées, comme dans les pièces pour piano de Nan Caro, c'est peut-être très difficile à entendre, mais enfin, bon, on peut dire que ça fait quand même un effet. Hein, ça, on entend quand même quelque chose. Bon, là c'est pareil. Si je fais... Je le fais sur mon écran, hein, c'est-à-dire je marque l'ouverture d'une parenthèse par un décrochement, puis de la deuxième par un deuxième décrochement, troisième jusqu'à la profondeur 6, où je suis d'ailleurs presque à l'extrémité droite de la ligne. Ça se lit. Simplement, si j'ai fait une parenthèse qui est longue, quand elle est terminée, y a peu de chances que mon lecteur se souvienne de ce qu'il y avait au début. Hein? Bon. Donc j'ai un problème pragmatique grave. Et c'est pour ça que je suis en train de flotter sur le mode de présentation.
D'ailleurs, l'évolution de votre travail, là, depuis les années 60, suit l'évolution des techniques, puisque votre premier livre est même pas tapé à la machine. Il est écrit de manière manuscrite, envoyé donc à votre éditeur Raymond Queneau sous cette forme. Les suivants sont tapés à la machine, et puis ça commence peut-être pas... Non ?
Non, les trois premiers sont manuscrits. Jusqu'en 73, j'ai réussi à publier... 31 cubes, c'est un manuscrit.
Mais en même temps, vous pensiez la forme du livre, puisque c'est un livre qui déborde la page de livre. Donc petit à petit, les techniques, vous emparez des techniques, peut-être avec un petit peu de retard, parce que c'est toujours mieux d'avoir un petit peu de retard finalement que de plonger bêtement comme ça dans la nouveauté technologique. Mais au fond, vous arrivez maintenant à utiliser presque toutes les possibilités technologiques de votre époque. Ce qui, d'ailleurs, vous pose peut-être quelques problèmes quand il y a une panne d'électricité, ou revenez à l'écriture manuscrite.
Oui, oui. De toute façon, je suis resté au manuscrit pour la poésie. Je ne compose pas de la poésie sur écran.
La forme d'une ville change plus vite, hélas, que le cœur des humains. Ces derniers livres ont été écrits de façon manuscrite.
Ouais. C'est-à-dire qu'il est composé dans la tête en marchant. Et ensuite, quand le poème est terminé, un morceau suffisamment important du poème est terminé, il ne faut pas que ça soit trop long, quand un morceau est terminé, je l'écris. Mais je l'écris à la main. Bon, ça, c'est quelque chose de biographique. Il se trouve que mon rapport à la poésie a toujours été à la copier. Aussi, la mettre dans la tête en la prenant et à la copier. Je recopiais les poèmes à la main et j'ai plein de carnets dans lesquels j'ai des tas de poèmes que j'ai par ailleurs en livre, mais que je copie. Non. Donc c'est à la main. La tête et la main, bon, pour la poésie. Mais la prose en question, là, dont le dernier volume, Poésie 2 points, vient de paraître, et qui en est à plus de 2000 pages imprimées, cette prose-là, elle est sur écran. Elle est sur écran, toujours de la même manière. Mais, bien entendu, j'ai une hésitation à m'engager dans les choses que l'on me propose du point de vue technique, pour une raison simple, c'est un investissement de temps considérable. Bon, si je me lance dans tel logiciel qu'on me propose, etc., telle manière de faire de l'hypertexte qu'on me propose, et puis que dans 3 ans, plus personne n'utilisera ça, ce serait vraiment pas drôle pour moi. Hein ? C'est ça. Hein.
Donc il faut rester assez pragmatique finalement.
Il faut rester, c'est pour ça, le retard par rapport à la technique n'est pas seulement qu'il faut bien la maîtriser et que c'est normal d'avoir un peu de retard sur la technique, mais également que ça change quand même un peu vite.
Enfin, en attendant, il y a deux mots qui sont importants là-dedans. Il y a la question de la mémoire qui a changé hein, avec le temps. Et il y a la question, effectivement, des ramifications. C'est-à-dire de la possibilité de réécrire à l'intérieur du texte sans pour autant, comment dire, que ça soit une rature classique. Hein, voilà.
Bien. Bon, tout ça, évidemment, l'idée centrale qui est là-dedans et qui est partout, c'est l'idée de mémoire. D'une part, du côté de la poésie, parce que j'ai eu l'idée que chaque poème est un moment où l'on compactifie, où l'on condense quelque chose de mémoire en langue. De mémoire en langue, donc mémoire à la fois de ce qui se passe dans une langue, sa propre langue, la façon de la posséder, dans la mémoire en langue, et puis mémoire dans une langue. Et puis, la mémoire intervient... Pour ce qui est de la prose, puisque je compose une prose, elle intervient de façon évidente, parce que quand on interroge le fonctionnement de la mémoire du point de vue du récit, hein, on interroge la façon dont ça se passe réellement, et c'est un récit que l'on fait à quelqu'un. Récit fait à quelqu'un, quand on voit comment ça se passe, où on raconte des choses, et des choses qui se sont passées, donc il faut intervenir le souvenir, la mémoire, eh bien, il y a un mode d'existence du récit qui est très particulier, c'est-à-dire qui appelle les embranchements. C'est tout à fait évident. Appelle les embranchements et appelle les retours en arrière. Mais en même temps, une fois qu'on a raconté quelque chose, on ne peut pas ne pas l'avoir raconté. Ça a été fait, ça a été dit, ça a été entendu. Alors... toutes ces conditions-là, qui sont tellement évidentes quand on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 3 jours et qu'on lui demande qu'est-ce que tu as fait, et puis on dit, et puis bon, ben, on parle de quelqu'un qu'il ne connaît pas, on s'engage dans la description de ce quelqu'un qu'il ne connaît pas, etc. Tous ces embranchements, toutes ces choses-là existent. Et même de façon plus complexe que je ne peux, moi, en rendre compte dans la prose. Donc, au fond... La manière dont je compose la prose, elle résulte des modes d'existence de la mémoire.
Et je ne dirais pas qu'elle prend sa source, mais quand j'entends le mot branche, je pense évidemment au Graal. Et vous avez d'ailleurs non seulement beaucoup travaillé aussi sur le Graal, mais en plus, là, c'est peut-être une frustration de lecteur. Vous avez publié une Graal fiction qui était censé être un court moment de prose d'une tentative très vaste, dont la suite n'est pas apparue, du moins sur le plan de l'édition. Alors, je ne sais pas si c'est comme l'autobiographie, chapitre 10, il s'agit d'un livre isolé qui a déjà été conçu dans cet esprit, mais on a été très frappés à cette époque, je pense que c'est à la fin des années 70, au début des années 80, de la même façon que vous aviez... permis de reconnaître l'importance des troubadours. C'était la même chose pour le Graal, dont on s'est rendu compte que c'était, je crois, comme vous le disiez, les enfants de la prose.
Oui, je me suis interrogé sur, au fond, ce qui se passait dans la non-poésie au moment où l'élément fondamental, l'innovation fondamentale dans la poésie se produisait avec les troubadours. Quand on fait ça, on rencontre inévitablement quelque chose qui est du récit versifié d'abord, avec Chrétien de Troyes, et puis surtout l'irruption du grand récit en prose. Le grand récit en prose dans ce qu'on appelle le Lancelot en prose, tous les romans du Graal. Alors, ça, se plonger là-dedans, c'est absolument merveilleux et étonnant, et surtout, on se rend compte que c'est véritablement une prose de mémoire. C'est une prose de mémoire parce qu'il y a ces bifurcations perpétuelles. En plus, ces bifurcations et ces embranchements perpétuels sont tout à fait liés au récit, puisque le récit accompagne des chevaliers et que ces chevaliers sont dans la forêt. On est dans la forêt, on est dans une forêt de mémoire et on arrive à un carrefour. Il faut aller d'un côté ou au milieu ou de l'autre. Et le récit veut les suivre tous. Comme il ne peut pas les suivre simultanément, eh ben, il s'engage dans une voie. Et 700 pages plus loin, il va revenir à l'autre. Donc, saisir la composition de cette prose est un véritable art de mémoire, d'une part, et d'autre part, le lecteur est un lecteur qui a un certain fonctionnement de sa mémoire aussi. Donc ça m'a servi comme modèle pour la prose.
Il y a aussi presque un désir de se perdre, hein, comme de se perdre. La forêt peut être aussi attirante par sa possibilité, ses dangers en fait. En plus, dans le grand incendie de Londres, donc qui est cette fausse autobiographie, ça arrange tout le monde, ça soit une autobiographie, mais qui se nourrit effectivement de moments de Jacques Roubaud, de la vie de Jacques Roubaud, mais de Jacques Roubaud poète, mais aussi de Jacques Roubaud marcheur. Je sais pas, enfin de tous les Jacques Roubaud
qui d'une certaine manière sont liés à la composition de poésie, de mathématiques et à la réflexion sur le roman et au récit. Donc ce sont que les choses qui dans la biographie ont trait à ces aspects-là qui sont mises en évidence.
Peut-être aussi parce que la matière de ce travail, c'est aussi tous ces moments. Enfin, c'est pas la matière de Bretagne, ça peut être aussi la matière de Bretagne dont on parlait. Et je sais pas si c'est vous, si vous, où vous le dites, parce que je me perds aussi dans ces 2000 pages. Si c'est une autobiographie, ça pourrait être aussi bien l'autobiographie de personne que l'autobiographie de tout le monde, comme dirait Gertrude Stein.
Oui, j'ai transposé un des titres de Gertrude Stein, qui après avoir écrit l'autobiographie d'Alistoclas a écrit l'autobiographie Tout le monde. Donc autobiographie de personne en ce sens que c'est malgré tout une interrogation sur le fonctionnement de la mémoire en prenant un mode d'expérimentation scientifique assez particulier qui est de s'interroger soi-même. Bon, il vaut ce qu'il vaut, hein. Bon, j'interroge une mémoire qui est la mienne et puis je cherche à voir des choses en lisant par ailleurs, voir quels sont parmi les traits du fonctionnement de la mémoire, les choses que je vois apparaître quand je me pose les questions que je me pose pour raconter tout ce qui est arrivé dans mon projet. Et donc, on se rend compte d'ailleurs que c'est un phénomène fort compliqué.
Mais c'est-à-dire que c'est en même temps très contrôlé. Il y a une série de nombres en jeu, comme d'habitude, et en même temps, il y a des risques, et d'ailleurs qui se vérifient, de revenir sur des choses dites, en ayant oublié qu'elles ont été dites. Ça, c'est une des possibilités. D'ailleurs, je vous ai pris en flagrant délit tout à l'heure, mais je n'ai pas la preuve, alors peut-être puisque vous ne vous rappelez pas avoir donné le nom de cette branche 5, or je suis certain qu'il y est, comme nous sommes dans une tentative d'ailleurs de faire comme vous le faites en écrivant ce livre, c'est-à-dire d'être dans une sorte de direct, c'est-à-dire qu'on ne va pas couper et revenir en arrière pour chercher la preuve, je me dis qu'au fond, en même temps, c'est un peu comme la vie, comme dirait De Guy dans un de ses poèmes.
Ce qui se passe est très clair, c'est qu'à mesure que ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai commencé à écrire cette prose, et il est clair que bien que j'ai l'impression de maîtriser ce que je raconte, comme je ne reviens pas en arrière et que je ne corrige pas, d'une part je fais des erreurs, mais ça c'est volontaire, je fais des erreurs et je ne les corrige pas. Il y a des erreurs par rapport à la réalité de certaines choses qui se sont passées, mais celles-là je ne les corrige pas. Mais par ailleurs, bien sûr, le risque de la répétition, et surtout de la répétition différente, c'est pas tellement que de redire une fois ou deux des choses qu'on a déjà dites, bien que ça soit assez embêtant, assez gênant. Mais c'est surtout de redire quelque chose et qui va être différent de ce que j'avais dit précédemment.
Mais toujours dans le principe de variation qui était le principe dès votre premier livre.
Oui, mais le principe de variation, au moment où je m'y suis engagé dans cette voie-là, je pensais le maîtriser. N'est pas la même chose d'être dans la variation sans le faire exprès. Ça c'est déjà différent. Et effectivement, c'est peut-être une des choses qui m'amèneront à m'arrêter. C'est au fond le sentiment de ne plus maîtriser réellement l'ensemble des choses qui sont dans la mémoire.
Et quand je disais c'est comme la vie, ce qui est une manière de dire c'est la vie, ça a été assez dit, mais je pense qu'il faut le dire, il s'agit d'un travail qui ne se fait pas à n'importe quel moment de la journée. Il est écrit, je crois, avant le lever du soleil en général, et donc il est lié à des insomnies, ou au fait de ne pas dormir au moment où tout le monde dort. Et dans cette quatrième branche, Poésie 2 points, il y a, au début, il est question d'une chose que vous aviez d'ailleurs déjà dites plus ou moins dans un autre livre, qui est l'abominable tisonnier, mais là je n'avais pas arrivé à... L'abominable tisonnier de John MacTaggart, Ellis MacTaggart, qui est cette angoisse qui vous a saisi une certaine année, que vous avez nommée angoisse climatérique, et l'année devenant une année climatérique, et qui semblerait donner un petit peu une indication qu'il s'agit d'une lutte en même temps.
Oui, j'ai joué un petit peu sur cette idée d'année climatérique qui n'a plus tellement de... à laquelle on ne croit plus tellement. Enfin, l'idée que dans la constitution de l'individu, quand on atteint la 63e année, qui est 9 fois 7, alors il se produit une espèce de révolution qui est extrêmement dangereuse. On peut en mourir ou on peut... il peut arriver des catastrophes. Bon. Ça me sert un petit peu d'allégorie de la menace qui pèse sur mon entreprise par le fait que je maîtrise de moins en moins ma mémoire. C'est tout à fait évident. Donc j'ai introduit ça dans le déroulement de la prose.
Mais il n'empêche que très souvent, il y a des indications, et dès la première branche, le grand incendie de Londres, qu'il s'agit au fond d'un projet en même temps, j'allais dire mélancolique, c'est-à-dire un projet d'une certaine manière de lutte par l'écriture contre le mal de l'âme qui s'est emparé du narrateur.
Oui, un des effets, si ce n'est pas la cause, enfin, une des caractéristiques de la conception mélancolique médiévale, c'est que on perd la chose au moment avant même de l'avoir obtenue. Donc c'est ce que le personnage de Galloway dans le Graal dit au moment où il rencontre Lancelot, et au moment même il sent qu'il a perdu. Il n'a pas encore gagné, qu'il sent et c'est après, il perdra après avoir gagné, parce qu'il faut gagner aussi, mais on sent qu'on est dans la perte. Donc le travail de mémoire que représente cette prose est un travail qui a un aspect mélancolique, hein, qui a c'est pas l'aspect dominant, mais qui est un aspect de tentative de maîtrise de tendances mélancoliques, mais il est aussi lié à l'idée que c'est perdu.
En plus, au fond, ce travail est une sorte de travail paradoxal, si on le disait en premier temps, puisqu'il est basé sur la constatation d'un échec et de la faillite d'une entreprise qui a été une entreprise quasiment, vous l'avez dit, presque mégalomaniaque.
Oh, plus que presque.
plus que presque. Et finalement, cette constatation et ce travail sur cet échec accouchent dans votre œuvre, si je puis dire, de la prose, au moins quantitativement, la plus forte, enfin, puisque ça fera quelque chose dans les 3000 pages bien serrées, au moins.
Oui. C'est vrai que cette constatation de l'échec n'a rien de tragique, en fait. Donc, puisque de toute façon, il s'agissait d'un projet mégalomane, et que je me satisfais finalement de l'idée que j'étais arrivé au moment où j'y ai renoncé, j'étais arrivé à l'idée de ce que ça serait. Donc, je savais très bien ce que ça serait. J'étais parfaitement j'avais bien conçu la chose, et à partir du moment où je suis arrivé à ça, je l'ai conçu, je l'ai arrêté. Donc, j'ai pas réussi. Mais bon, après des années et des années, il s'est passé, parce que maintenant, c'est quand même plus de 20 ans, je ne vois pas ça de manière tragique.
Il y a finalement beaucoup de tragédies, j'allais dire, dans la vie, mais il y a peu de tragédies dans l'œuvre.
Voilà. Et il y a des tragédies en dehors de la vie qui sont encore beaucoup plus tragiques dans le monde contemporain. Donc, de ce point de vue, c'est assez... Le caractère tragique de cet échec est tout à fait secondaire.
C'était le quatrième de 5 à voix nues de Jacques Roubaud au micro de Christian Rosset. Une émission diffusée pour la première fois le 4 mai 2000 sur France Culture et réalisée par Bruno Sourcy. À suivre.